Actu SF, les podcasts.
Donc bienvenue pour cette université éphémère sur la généalogie de la matière, où donc je vais essayer de vous expliquer en à peu près une heure, et puis on regardera une demi-heure pour les questions après, de vous expliquer d'où vient la matière. Enfin, comment la matière que nous connaissons, dont nous sommes formés, les atomes de carbone, d'oxygène, d'azote, essentiellement pour l'être humain, d'où ils viennent, et comment on a su ça. Alors, je vais commencer doucement, normalement, j'espère ne perdre personne, il y aura une ou deux équations pour ceux qui aiment ça, ceux qui ne savent pas, c'est pas grave, il y aura aussi l'intention, vous comprendrez, je vais essayer d'expliquer en français ce qu'elle signifie, pour que chacun puisse y trouver à manger. Alors, généalogie de la matière, ça, c'est une histoire qui est
assez longue. En fait, c'est finalement un résumé. C'est de l'astrophysique, bien sûr, parce que c'est l'astrophysique qui pose cette question de d'où vient la matière qui nous constitue et qui apporte une réponse, mais en utilisant de la physique du XXe siècle. Beaucoup de physique du XXe siècle, dont la physique nucléaire, dont la physique quantique, dont la physique nucléaire, finalement, est issue, la gravitation, et puis, bien sûr, l'astrophysique, l'observation et les questionnements et les observations qui ont été menées par l'astrophysique, et aussi, disons, ce qu'on appellerait la planétologie, enfin, l'étude du système solaire, notamment, une courbe intéressante qui est celle-ci, qui est la démographie nucléaire de l'univers. Alors, de l'univers en un sens assez restrictif, puisqu'en fait, c'est notre système solaire, et on voit sur cette courbe... mais j'ai un pointeur. Et on voit sur cette courbe... représenter horizontalement les noyaux avec ce qu'on appelle leur nombre atomique, le nombre de nucléons qu'ils contiennent. Un noyau, je vais y revenir dans un instant, contient des noyaux, des nucléons, des protons et neutrons. Et puis la somme des deux, protons plus neutrons, le nombre de protons plus le nombre de neutrons, ben voilà, c'est ce qui est représenté horizontalement. Il n'y a pas de noyau à zéro proton et zéro, enfin c'est juste rien. Le premier, c'est l'hydrogène qui a un proton, l'hélium à côté, l'hélium 4 qui a deux protons, deux neutrons, etc. Jusqu'au plomb qui est là-bas, qui est le noyau stable le plus massif. Et puis verticalement, les proportions relatives, ça veut dire que c'est pas le nombre total qu'on trouve dans le système solaire ou qu'on trouve quelque part, c'est si on imagine que le silicium c'est 10 puissance 6 noyaux, alors il y a environ 10 puissance 10 noyaux d'hydrogène. C'est-à-dire que la proportion relative, pour 10 puissance 6 noyaux de silicium, il y a 10 puissance 10, 10 milliards de noyaux d'hydrogène. Donc il y a 10 000 fois plus d'hydrogène que de silicium, etc. Et quand on regarde ça à l'échelle ici qui est logarithmique, 10 milliards, 1 milliard, 100 millions, 10 millions... 10 puissance 7, 10 puissance 6, 1 million, etc. On a une échelle logarithmique. Donc ça veut dire que quand on est là-haut, on est à 10 milliards. L'hélium, il est déjà à 1 milliard. Ces trucs-là, ils sont à 1. Et puis le silicium qui est là à 1 million. Le carbone, l'oxygène, vous voyez, ils sont à 10 millions. Ça veut dire qu'il y a, en proportion relative, en gros, 90% d'hydrogène en nombre de noyaux, 10% d'hélium et le reste, c'est à peu près zéro. Pas tout à fait, c'est 10 puissance moins 3, quelques millièmes pour carbone, azote, oxygène. Puis le reste, on n'en parle même pas, c'est rien. Enfin, rien. Vu d'ici, c'est beaucoup. C'est juste toute la matière qui nous constitue. Mais à l'échelle de notre système solaire, dont l'essentiel de la masse, c'est le Soleil, 99,8% de la masse du système solaire, c'est le Soleil, c'est de l'hydrogène. 0,1%, c'est Jupiter. Un peu moins que 0,1%, c'est Saturne. Et le reste, c'est-à-dire moins que pas grand-chose, ben, c'est le reste, la Terre en particulier. La Terre, elle représente en masse solaire, c'est 1/330 millième de la masse du Soleil. Donc c'est une très petite, 3 millionième de masse solaire. C'est vraiment une toute petite chose. Donc voilà la démographie nucléaire, on aimerait comprendre ça. On aimerait comprendre ça parce que quand on voit ça, il y a des questions. Et on voit qu'il y a beaucoup d'hydrogène et d'hélium. Il y a un creux énorme au niveau de ce qu'on appelle les éléments légers, lithium, beryllium, bore. Il y a des espèces de pics locaux au carbone, un pic à l'oxygène, un pic au néon, au silicium, au soufre, un pic au fer. Regardez ça, ça avait l'air de la tendance décroissante. Et hop là, ça remonte à fond sur le fer, puis bzzz, ça redescend. Et puis il y a des petits pics locaux, comme le plomb. Et d'autres endroits. Donc, non seulement on aimerait comprendre les rapports qu'il y a entre les nombres de ces noyaux, mais on aimerait comprendre pourquoi il y a un pic là, pourquoi là, il y en a un peu plus qu'alentour, à côté. D'accord ? Donc, c'est un peu l'ambition. Une fois qu'on a cette démographie, on aimerait comprendre d'où elle vient. Et bien voilà, c'est l'heure qui suit. En gros. Pas dans tous les détails quand même, mais l'intention. Alors, première chose, d'abord, un petit rappel, mais j'en ai déjà dit des choses, sur la structure de la matière. Vous avez déjà peut-être vu des choses là-dessus, puisqu'on avait le plaisir d'accueillir des physiciens nucléaires, et une physicienne nucléaire aussi pendant ces utopiales. Je le rappelle quand même pour que tout le monde ait bien les notations en tête, ou les mots en tête. Un noyau s'est formé de nucléons, des particules qui sont des protons ou des neutrons. Les protons, note Z, le nombre de protons, on appelle ça aussi la charge électrique du noyau, c'est le même nombre d'électrons qu'il y a dans l'atome neutre, il y a autant d'électrons que de protons, les électrons ont une charge négative, les protons ont une charge positive, et l'atome globalement est neutre. Il y a autant d'électrons que de protons. Et puis N, le nombre de neutrons. Et puis Z plus N, c'est le nombre de nucléons. C'est ce nombre qu'on avait mis horizontalement, qu'on appelle aussi, entre guillemets, masse du noyau. Puisque la masse du noyau, ça va être, en gros, la masse des protons plus la masse des neutrons. Les protons et neutrons ont presque la même masse. Il y a des subtilités. On va y venir dans un instant. Et les isotopes, quand on parle d'isotopes, c'est des noyaux qui ont le même nombre de protons. D'accord ? Des isotopes, c'est des noyaux qui ont le même nombre de protons. Autrement dit, ils ont les mêmes propriétés chimiques. Parce que s'ils ont le même nombre de protons, ils ont le même nombre d'électrons. Et les électrons, c'est eux qui fixent la chimie. Donc deux isotopes ont exactement la même chimie, mais ils ont de la physique nucléaire différente parce qu'ils ont un nombre de neutrons différents. Et donc ils ont une fabrication, une structure, une aventure, une stabilité qui va être différente. Donc ce qui lie les nucléons entre eux, en particulier les protons qui sont chargés positivement, ils se repoussent par la force électrostatique, ce qui lie les nucléons entre eux, c'est l'interaction nucléaire forte, qui comme son nom l'indique est forte. C'est-à-dire si on met dans une échelle de 100 dimensions, si on appelle 1 l'interaction nucléaire forte, l'interaction électromagnétique, la chimie, c'est 10-2, l'interaction nucléaire faible, c'est 10⁻⁴, l'interaction gravitationnelle, c'est 10⁻�38. Donc là, la gravitation, on s'en fout. Mais on va voir qu'elle va avoir une utilité à un autre moment. Donc force nucléaire forte qui lie les nucléons entre eux, il faut qu'elle soit suffisamment forte pour assembler d'une part des nucléons sans charge que sont les neutrons, mais aussi assembler des protons avec charge électrique de même signe qui se repoussent par l'interaction électrostatique de sorte qu'ils restent entre eux. Et donc elle est attractive, son intensité, je viens de le dire, c'était 100 fois plus, puisque si on l'appelle 1, l'interaction électrostatique c'est 10⁻2. Donc 100 fois plus que la répulsion électrique, et elle est à courte portée. Courte portée, ça veut dire 10⁻⁰ mètres, un millionième de milliardième de mètre, qui est la taille typique du noyau. Au-delà du noyau, l'interaction nucléaire forte, l'interaction nucléaire faible, dont on parlera un tout petit peu, mais pas beaucoup, eh bien, elle n'a aucune espèce d'influence. Donc à l'inverse, à nos échelles, et même avant ça, même à l'échelle de l'atome, donc de la chimie, l'interaction nucléaire n'a aucune influence. Donc en gros, il y a un monde qui est le monde microscopique à l'échelle des noyaux, où c'est les interactions nucléaires qui comptent. À l'échelle des atomes et au-delà, c'est électrostatique et gravitation. On va discuter le jeu entre électrostatique et gravitation ensuite. Donc, les gros noyaux, eh bien, comme l'interaction nucléaire a une portée pas très grande, si j'ajoute des nucléons, j'ajoute même des neutrons qui sont de charge nulle, donc a priori, il n'y a pas forcément à lutter contre la répulsion électrostatique. Si j'ajoute des neutrons, ben, le noyau est de plus en plus gros, et plus les nucléons sont lointains, si j'ose dire, dans les couches externes, eh bien, moins ils seront liés, et les gros noyaux sont instables. Ce qui explique qu'il existe un plus gros noyau stable qu'aux alentours du plomb. D'accord. Au-delà, l'uranium, hein, qui a 92 protons, quand le plomb en a 82, eh bien, l'uranium est instable. Voilà. Il y a des isotopes instables de l'uranium. Et la force nucléaire forte, elle est indépendante de la charge. C'est-à-dire qu'un proton et un proton s'attirent avec la même intensité qu'un proton et un neutron, ou que deux neutrons. Elle est indépendante de la charge. Donc voilà un peu pour un petit panorama de la structure interne. On peut tracer tous les noyaux qu'on connaît, il y a à peu près 3000 noyaux qu'on connaît, dans un diagramme où on a verticalement le nombre de protons, horizontalement le nombre de neutrons. La ligne rouge qui est ici, c'est autant de protons que de neutrons. Le noyau a autant de protons que de neutrons. C'est la première bisectrice. Alors sur cette ligne rouge, au début, on voit qu'on est en gros sur la ligne rouge, c'est-à-dire que les noyaux de petite masse, de petite taille, comme l'hélium-4 à 2 protons, 2 neutrons, l'oxygène 16 à 8 protons, 8 neutrons, le carbone 12 à 6 protons, 6 neutrons. On est assez souvent sur la ligne autant de protons que de neutrons. Et puis on voit que quand le nombre de nucléons Z+N augmente, eh bien la ligne rouge Z égale N, on s'en éloigne. Les carrés noirs, ce sont les éléments stables. Et autour, c'est tout ce qui n'est pas un carré noir, c'est un élément qui n'est pas stable, un noyau qui n'est pas stable, et qui se désintégrera, soit par désintégration bêta-, bêta-plus, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ça, mais cette ligne noire, on appelle ça la vallée de stabilité, elle s'éloigne de Z égale N. C'est normal, quand on a un gros noyau, chaque fois qu'on rajoute un proton, il faut lutter contre la répulsion électrostatique, qui est emmerdante, qui va déstabiliser le noyau. Donc les très gros noyaux sont instables à cause de la répulsion électrostatique et à cause de la répulsion coulombienne. Alors donc, c'est plus facile de rajouter des neutrons pour avoir des gros noyaux, et à la fin, on a des noyaux qui ont beaucoup plus de neutrons que de protons. Et il y a une limite maximum, quelque part par ici, où il n'y a plus de noyaux stables. Et on se pose la question, alors là, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est de la physique nucléaire qui me dépasse, on se pose la question de savoir s'il existe des noyaux, un autre îlot de stabilité, d'autres noyaux stables super lourds. C'est un des thèmes de recherche de la physique nucléaire. Nous, on va rester dans les noyaux, disons, canoniques, pas trop exotiques, qui sont ceux-là. Et quoi dire encore d'autre ? Oui, il y a des noyaux, on va constater ça aussi, les noyaux pair-pair, ça veut dire quoi ? Ils ont un nombre pair de neutrons et un nombre pair de protons. Ces noyaux qui ont parité, double parité en nombre de protons, nombre de neutrons, sont beaucoup plus nombreux dans les noyaux stables que ceux qui sont impair-impair, ou ceux qui sont pair-impair ou impair-pair. Donc, avoir la double parité. Alors déjà, on se rend compte, stable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce noyau-là, il va être plus difficile à casser. D'accord ? La stabilité d'un noyau, c'est, ça va être quantifié par est-ce que je peux le casser facilement, par ce qu'on appelle son énergie de liaison. C'est ça qu'on appellera un noyau stable, qui a une grande énergie de liaison, qui est très solidement liée. Alors on peut s'attendre, déjà, vous voyez tous les petits pics qu'on a, on pourrait regarder à quel noyau il tombe dans la courbe de démographie. Ah, c'est marrant, il tombe souvent, ce noyau pair-pair. Bah, ça tombe bien, si on fabrique des trucs spontanément, vont s'accumuler peut-être plus facilement les noyaux plus stables que les autres, plus solides que les autres. D'accord ? Donc là, déjà, on commence à sentir que par la compréhension intime de la matière, on va peut-être commencer à rendre compte d'un certain nombre de phénomènes, en tout cas les comprendre, à défaut de savoir leur origine physique, comment ça se produit en pratique, dans quelle source astrophysique ça se produit. Mais là, on commence déjà à se dire, ah, il y a plein de pi, bah, le carbone, l'oxygène, l'azote, pour commencer par cela, puis même plein d'autres après, c'est précisément des noyaux, souvent des noyaux très stables. Alors, autre chose, on peut tracer ce qu'on appelle l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de nucléons. Nombre de nucléons, donc c'est protons plus neutrons, l'ensemble de tous les nucléons du noyau. Et l'énergie de liaison, c'est quoi ? C'est l'idée que le noyau, c'est un ensemble de nucléons liés par l'interaction nucléaire forte, on l'a dit. Ces nucléons, ils pourraient être indépendants. On pourrait peser, hein, par exemple, un atome d'hélium, il a deux protons, deux neutrons. On pourrait dire combien ça pèse deux protons, bah, deux fois la masse du proton. Combien ça pèse les neutrons, bah, deux fois la masse du neutron. Et donc la masse du noyau d'hélium, ça serait deux fois la masse du proton plus deux fois la masse du neutron. La réponse est non. Ça n'est pas ça. C'est plus petit que ça. Autrement dit, un noyau d'hélium 4, avec ses deux protons et ses deux neutrons, il est plus léger que les constituants qu'il intègre, que deux protons et deux neutrons. Ça paraît curieux. C'est dû au fait que ces protons et ces neutrons sont liés entre eux par l'interaction nucléaire forte, qui est une force attractive et à laquelle est associée une énergie de liaison négative qui vient en décrément de l'énergie totale. L'énergie totale, c'est quoi ? L'énergie de masse des protons plus l'énergie de masse des neutrons plus, mais c'est un nombre négatif qu'on additionne, plus l'énergie de liaison qui est négative. Et cette énergie de liaison, elle va venir lier, elle est là pour lier les nucléons entre eux contre l'interaction, en particulier l'interaction électrostatique des protons, par exemple. Donc un noyau, c'est plus léger que la somme de ses constituants. Et il y a un écart qui s'appelle énergie de liaison. Alors, en physique, elle est négative, mais les physiciens nucléaires, qui sont des physiciens aussi, la notent plutôt positivement pour dire une grande énergie de liaison, sous-entendu une énergie de liaison très négative, en fait, physiquement, qui correspond à une force attractive, une grande énergie de liaison est associée à un noyau solide, qui est bien lié, les nucléons sont bien liés entre eux, et il sera donc difficile à casser. Difficile à casser, on s'est jaugé par l'unité qui est utilisée ici, qui est le méga-électronvolt, le million d'électronvolts. L'électronvolt, c'est une très petite unité d'énergie, le million, bah, c'est un million de fois un truc pas gros, donc c'est pas bien grand. Mais cette énergie-là, quand on la rapporte au noyau, c'est la bonne unité d'énergie pour voir ce qui se passe dans les noyaux. Dans la chimie, l'unité d'énergie typique dans une réaction chimique, c'est l'électronvolt. Ceux qui savent ce que c'est, tant mieux, les autres, c'est pas grave, c'est juste un nom. La chimie, ça fait des énergies de liaison. Quand on prend deux molécules, une d'hydrogène, dioxygène, et qu'on les lie pour faire une molécule d'eau, on fait la réaction chimique, l'énergie dégagée par cette réaction, elle se chiffre en électronvolt par réaction. Électronvolt. Là, on parle de méga-électronvolt, donc de millions d'électronvolts. L'intensité de la force de liaison, de l'énergie de liaison plutôt nucléaire, est en gros un million de fois celle de l'énergie de liaison chimique. Ce qui veut dire que quand on exprime, par exemple, on dit la puissance souvent, mais on veut dire l'énergie dégagée par une bombe nucléaire, si on prend celle d'Hiroshima, 15 kilotonnes de TNT, 15 000 tonnes de TNT, 15 millions de kilogrammes de TNT, 15 millions de kilogrammes d'un truc chimique qui, quand il vous pète à la gueule, ça fait des dégâts. C'est de la chimie, le TNT, le trinitrotoluène. Une bombe nucléaire comme celle d'Hiroshima, c'est 15 millions de kilogrammes d'un truc de chimie. Et combien il y a d'uranium, combien il y a de matière fissile, combien il y a de masse de noyaux utiles dans Hiroshima, en ordre de grandeur, la dizaine de kilogrammes, quelques dizaines de kilogrammes font 15 millions de kilogrammes de chimie. Un million, mégaélectronvolts, électronvolts en chimie. D'accord ? C'est la traduction directe de ce rapport d'énergie considérable qu'il y a entre l'énergie de liaison nucléaire et l'énergie de liaison chimique. Un million de fois plus d'énergie pour briser un noyau ou récupérer un million de fois plus d'énergie quand on bricole les noyaux si ce bricolage dégage de l'énergie. Il peut en consommer, il peut en dégager. D'accord ? Ce qui explique que 1 gramme d'uranium ou 1 gramme de combustible dans une centrale nucléaire est équivalent à plusieurs tonnes de pétrole. En termes de la combustion de plusieurs tonnes de pétrole, c'est de la chimie, seulement 1 gramme. D'accord ? 1 million de fois 1 gramme, ça fait 1000 kg, ça fait une tonne. Vous voyez l'idée ? Elle est encore toute contenue dans ce rapport d'énergie de liaison nucléaire versus chimique. Donc là, on est dans l'énergie nucléaire. On va chercher à comprendre l'assemblage des noyaux. Donc on est dans des énergies qui se comptent en millions d'électronvolts. On voit que la courbe, elle est montante. Elle a un maximum assez plat au niveau du fer. Et après, elle diminue. Ça veut dire que les noyaux légers sont de plus... Enfin, en partant des noyaux légers, en allant vers des noyaux lourds, sont de plus en plus liés. Chaque nucléon est de plus en plus tenu. L'énergie de liaison est de plus en plus grande. Et elle vaut de l'ordre de 8 mégaélectronvolts. Vous voyez que entre 8,5 et 7,5, on a pratiquement tous les noyaux. Il y a quelques petits noyaux qui sont là, les plus légers. Elle est donc de l'ordre de 8 mégaélectronvolts par nucléon. Et après, elle diminue après le fer. Alors, c'est quoi l'énergie de liaison ? C'est l'énergie qu'il faut fournir pour casser le noyau ou c'est celle qui est libérée si le noyau se forme spontanément ? Alors, du coup, en regardant cette courbe-là et avec ce maximum au niveau du fer, on va comprendre les deux processus qui permettent de retirer de l'énergie, de sortir de l'énergie du noyau des atomes. Soit vous prenez deux petits noyaux, vous les assemblez, et ça va vous coûter parce qu'ils sont tous les deux chargés électriquement positivement, ils vont se repousser, donc ça vous coûte un effort. Mais cet effort, il est d'ordre électrostatique. Et si les deux noyaux, grâce à votre effort, s'assemblent, vous en retirez une énergie de liaison plus élevée, donc un noyau qui est plus léger que les constituants de départ, et la différence qu'on appelle énergie de liaison, elle va être libérée sous forme d'énergie, E égale mc2. Et donc, assembler deux petits noyaux pour en faire un plus gros, ça vous coûte chimiquement, si je veux dire électrostatiquement, et ça vous rapporte nucléairement. C'est pas pour ça que c'est facile à faire, mais vous gagnez beaucoup d'énergie. Ça s'appelle la fusion thermonucléaire. Vous chauffez et vous confinez, et ça n'est pas trivial, on ne sait pas le faire de façon contrôlée sur Terre actuellement, au sens produire plus d'énergie qu'on a mis dans la machine. C'est le but du réacteur ITER, qui est en construction, qui est une expérience de fusion thermonucléaire contrôlée en construction à Cadarache en France, et qui est une expérience internationale, qui n'est pas et de loin que française. C'est la fusion thermonucléaire contrôlée, espère-t-on, dans ITER à visée de production d'énergie. Non contrôlée, ça s'appelle une bombe à hydrogène, comme on dit, une bombe à fusion thermonucléaire, qui est pas tout à fait le même mode que les bombes dont je parlais tout à l'heure. Hiroshima, une bombe à fission. Vous prenez cette fois-ci un gros noyau, vous le cassez en deux et vous obtenez un noyau qui est plus lié que l'origine. Encore une fois, vous récupérez de l'énergie de liaison. Vous avez un noyau, vous partez d'un noyau peu lié et vous allez vers un noyau plus lié, qui a une énergie de liaison plus élevée. Quand vous faites ça, vous gagnez la différence libérée sous forme de rayonnement, typiquement, ou d'énergie cinétique, d'énergie de mouvement des particules. Vous cassez de l'uranium, ça fait un truc deux fois plus petit. Mettons typiquement deux fois plus petit, c'est plus compliqué que ça, mais mettons deux fois plus petit, et ça libère de l'énergie. Ça s'appelle la fission nucléaire. Les centrales fonctionnent en cassant des gros noyaux pour en faire des plus petits, et on utilise l'uranium-235 qui en plus se casse tout seul, ou on l'aide à se casser tout seul. Et on pourrait utiliser, ça c'est le cas des bombes à fusion, mais on espère le faire dans ITER, la fusion thermonucléaire, deux petits noyaux, ça s'assemble pour en faire un plus gros, et ça libère de l'énergie. Et la limite de ces deux processus, c'est au niveau du fer, puisque à chaque fois, il faut grimper la courbe d'énergie de liaison par nucléon. Et comme cette courbe a un maximum, on peut la grimper que d'un côté. Après, si on continuait, si on dit, tiens, je vais prendre deux noyaux un peu au-delà du fer pour en faire un très gros noyau, ça va vous coûter de l'énergie deux fois. Il faudra rapprocher les noyaux et en plus, il faudra fournir l'énergie pour donner l'énergie de liaison au noyau fils. C'est une énergie de liaison qui est plus basse que le noyau père. Donc, vous allez devoir payer deux fois d'énergie pour les rapprocher et pour fournir pour compenser ce qui manque. Donc, pour gagner de l'énergie, pour recevoir de l'énergie, c'est fission, les gros vers les petits, fusion, les petits vers les gros. Et gros, c'est le fer, qui est le noyau le plus stable, au sens le plus lié. Vous vous rappelez la démographie ? Vous vous rappelez où il y avait une sorte de pic local ? Au fer, tiens, tiens. C'est curieux. Il y avait les noyaux perpères et il y a le pic du fer. Alors, pour comprendre, là, c'était un peu une introduction de physique nucléaire, parce qu'ensuite, on va en avoir besoin pour le comprendre d'où ça vient. Alors, comprendre d'où ça vient, il va falloir passer par les étoiles. Ça a été une affaire d'astrophysicien. Il faut comprendre et passer par les étoiles. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une étoile ? Alors, il y a plein de réponses possibles. Il y a une réponse très technique, il y a une réponse simple. C'est une grosse sphère de gaz chaud. Ça, c'est déjà pas mauvais, et ça dit des choses. Alors voilà, à l'échelle, le Soleil, avec une éruption typique, et la Terre, à la même échelle. Pas à la bonne distance, hein, je vous rassure. Quand il y a du vent solaire qui arrive, c'est pas ça, hein, tranquille. Donc la Terre, c'est tout petit, c'est 109 fois plus petit. En rayon, c'est 1/100, en gros, du rayon du Soleil. C'est 1/330 millième, 1/3 millionième de la masse du Soleil. Il y a des éruptions solaires qui font typiquement 150 000 km. C'est les grosses éruptions de hauteur. Hein. La Terre, c'est 12 000 km, donc ils sont 10 fois hautes comme la Terre est diamétrale, si je veux dire. Donc une étoile. Le Soleil, on prend souvent le Soleil comme unité, c'est notre étoile, et elle est une unité, comme on prenait le pied du roi ou le coude du roi pour faire des unités dans l'ancien temps. Ben là, on prend le Soleil. Le rayon du Soleil, 696 000 km, sa masse 2 × 10⁻³ kg. Sa luminosité, 3,8 × 10⁶ watts. Ça veut dire que, en gros, en 1/1000000ème de seconde, le Soleil rayonne autant d'énergie que la Terre en utilise, que les humains en utilisent en une année entière. 1/1000000ème de seconde de tout ce que rayonne le Soleil, c'est l'humanité un an. Vous comprenez l'intérêt majeur qui est à se brancher sur la prise électrique Soleil. C'est pas facile. C'est un autre sujet, on pourrait en discuter longuement. Bon. Ça peut être intéressant. Sa température de surface, 6000 degrés. 6000 Kelvin, à peu près, c'est 6000 degrés, 6000 Kelvin, enfin 7700, ça fait 5500 degrés Celsius. C'est chaud. C'est pour ça que c'est brillant. Les étoiles typiques, c'est des choses, c'est pas n'importe quoi. Ça va, la taille des étoiles typiques, entre 1/100 et 1000 rayons solaires. Ça va entre 1/10 et 100 masses solaires, en ordre de grandeur. Luminosité entre 1/1000000 et 1 000000 de luminosité solaire. Je peux vous dire, cette étoile s'y défonce. 1 000 000 de luminosité solaire. Les variations d'installation sur le sol de la Terre qui sont responsables des saisons, c'est 2%. Donc quand vous prenez un facteur 1 000 000 à la place, vous mettez le Soleil, il y a un truc qui fait 1 000 000 de fois la luminosité du Soleil, je peux vous dire, la Terre, elle est vaporisée, quoi. C'est même pas, il fait un peu plus chaud, c'est juste, il n'y en a pas. Et température, 2000 à 50 000 degrés. Voilà, pour avoir des ailes, il n'y a pas n'importe quoi. D'accord ? C'est pas n'importe quoi. Il y a plein de raisons. Il y a un cours complet d'astrophysique que je faisais à l'école polytechnique, j'ai fait à l'école centrale, pour expliquer tout ça et comment ça fonctionne une étoile. Je vais vous donner les rudiments de comment fonctionne une étoile, parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre d'où viennent les noyaux. C'est en essayant de comprendre comment fonctionnent les étoiles qu'on a compris d'où viennent les noyaux. Composition du Soleil. Alors là, je vous donne la composition en masse pour vous embrouiller. Non, pas pour vous embrouiller, pour vous dire qu'il faut se méfier de ce qu'on entend, ou du moins faire attention à ce qu'on entend. Tout à l'heure, j'ai dit dans l'univers, disons l'univers local, le Soleil, 90% des noyaux, c'est d'hydrogène, et 10%, c'est de l'hélium. Et là, j'ai marqué 73,5%, c'est de l'hydrogène, et 24,9%, c'est de l'hélium. La différence, c'est que dans un cas, je parlais en nombre de noyaux, quand je dis 90-10, ça veut dire que sur 10 noyaux, il y a 9 noyaux d'hydrogène et 1 noyau d'hélium. Mais si je parle en masse, la masse, c'est 9 fois la masse de l'hydrogène plus une fois la masse de l'hélium. Mais l'hélium, l'hydrogène pèse 1 proton, et l'hélium pèse 4. Donc les proportions en masse et les proportions en nombre ne sont pas les mêmes. Et là, c'est les proportions en masse. 3/4 de la masse du Soleil, c'est l'hydrogène. 90% des noyaux, c'est l'hydrogène, du nombre. 25%, c'est de l'hélium, et 2%, un peu moins de 2%, c'est tout le reste. Ce qu'on appelle, les astrophysiciens, il y a 3 catégories mentales. Il y a l'hydrogène et l'hélium. Il y a les éléments légers, lithium, beryllium, bore. Et tout le reste, ils appellent ça les métaux. Bon, c'est une notation d'astrophysicien. Pour dire tout ce qui est lourd, plus lourd que hydrogène, hélium et éléments légers. Ce n'est pas des métaux au sens de la chimie, comme le fer. Le carbone est compté dans les métaux en astrophysique. Bon, j'essaierai de faire attention quand j'en parle, mais c'est des aimants lourds, plus lourds que hydrogène, hélium. Cela, on n'en parlera pas trop, à part comme base de départ. ils ont une source, ils ont une origine. En tout cas, l'hélium a une origine, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Et ce qui va m'intéresser, c'est les autres, la matière dont nous sommes constitués, la table, la chaise, vous et moi, et les chiens et les ânes. Alors, il faut comprendre maintenant comment fonctionne une étoile. La question s'est posée il y a longtemps, et là je vous raconte ce qui s'est passé dans la tête de M. Kelvin au XIXe siècle, la question s'est posée il y a longtemps pour comprendre pourquoi une étoile brille. Alors assez rapidement, la réponse est parce qu'elle est chaude. C'est très facile. Une étoile brille parce qu'elle est chaude. Comme le filament des ampoules qui est ici sont brillants, parce qu'ils sont traversés par un courant électrique qui les échauffe par effet Joule et ils deviennent brillants. La matière chauffée au feu devient brillante si elle est assez chauffée. La lave est brillante parce qu'elle est chaude. Donc le soleil est brillant parce qu'il est chaud. Et je peux même dire sa température en analysant sa lumière par spectroscopie, 6000 degrés. Bon. Mais maintenant, si c'est chaud et qu'il rayonne, il perd de l'énergie. Mais d'où elle vient cette énergie? Comment le soleil peut briller longtemps? Est-ce qu'il se refroidit au rythme où on le voit? Comment ça marche? Donc pour ça, il faut essayer de se poser la question de qu'est-ce qui rassemble la matière d'une étoile et qu'est-ce qui lui donne sa stabilité? Le soleil, il est là. Il était là hier, il était là il y a 50 ans et les gens anciens, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les gens qui ont fait de l'astronomie, ils ont dit qu'il y avait du soleil encore il y a longtemps dans le passé. Et on sait maintenant que le soleil a 4,5 milliards d'années. Donc la condition d'équilibre du soleil, la voilà. Vois ici grossièrement schématisé le soleil, la grande sphère extérieure, une sphère interne que j'ai, enfin une couche que j'ai singularisée, cette couche-là avec une partie intérieure et la couche extérieure. Et dans cette couche, j'ai singularisé une partie ici qui subit trois forces. La première, c'est son poids. Elle est tirée par tout ce qui est en dessous d'elle, donc elle a envie de descendre. C'est le poids de cette couche, de cet élément de soleil. Deuxièmement, cet élément de soleil, si rien ne se passe, ben, son poids, c'est-à-dire sa propre gravité, le fait tomber vers le centre et look, le soleil devait s'écrabouiller en un point, ce qu'on ne constate pas. Pourquoi il ne s'effondre pas? Il y a une force contradictoire. Et quelle est cette force? Alors, ce n'est pas la pression, c'est plutôt les variations de la pression. Parce que cet élément, on lui pèse sur la tête, plus exactement, on lui appuie dessus par la pression du gaz qui est au-dessus et ça l'enfonce vers le bas. Et on lui appuie aussi sous les pieds. Mais si la pression varie habilement, autrement dit, si la pression qui m'appuie sur la tête pour m'enfoncer avec la gravité est plus faible que la pression qui me pousse sous mes pieds pour me sortir vers l'extérieur, de sorte que la différence de pression compense le poids, vous restez à l'équilibre. Donc ce qui va compter, c'est ce qu'on appelle en physique le gradient de pression. Alors j'ai écrit des équations pour faire chef. Et qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. La dérivée de la pression, la façon dont la pression varie avec la position dans l'étoile, en s'enfonçant dans l'étoile, doit être de sorte, pour que l'équilibre soit réalisé, doit être de sorte que ça compense le poids d'une couche donnée, qui, elle, la fait tomber vers le centre. On constate ça dans notre atmosphère. Hein. Si la pression au niveau du sol est plus importante qu'en altitude, ben c'est parce que la pression au sol, la couche au sol, elle subit le poids, on lui apaise sur la tête. Et il y a le sol qui l'empêche de rentrer dans la Terre. Donc une couche d'air au sol, subissant le poids de tout ce qu'il y a au-dessus, est comprimée plus que quelque chose qui est en altitude, mettons à 5 km, qui subit une pression en dessous, une pression au-dessus, dont la différence est moins importante, la garde à l'équilibre, mais qui lui donne une pression plus faible. Donc de la même façon que notre atmosphère est stratifiée sous l'effet de la pesanteur de la Terre, la gravité de notre atmosphère, c'est que dalle, enfin, ça pèse rien au regard de la Terre, c'est 10 puissance 15 tonnes, c'est rien du tout. La Terre, c'est 10 puissance, ça fait 10 puissance 18 kg, la Terre, c'est 10 puissance 24 kg. Donc l'atmosphère ne pèse rien, sa gravité ne compte pas beaucoup dans la gravité totale. Donc c'est vraiment la gravité de la Terre qui va structurer notre atmosphère. Là, c'est la gravité de l'ensemble de l'étoile. Et elle a une condition d'équilibre, il faut que la pression varie et augmente avec la profondeur. C'est indispensable, la pression doit augmenter avec la profondeur. Si la pression disparaissait, si on imagine par un coup de baguette magique, on dit « la pression n'existe pas », qu'est-ce qui se passe? Ben, l'étoile s'effondre sur elle-même sous l'effet de sa gravité. Combien de temps il faut pour faire ça? On écrit l'équation de chute libre. Si l'étoile s'effondre sur elle-même, l'accélération, c'est la gravité de l'étoile. J'ai mis des équations pour ceux qui peuvent suivre, les autres, c'est pas grave, je le dis aussi en français. Vous tombez sous l'effet de la pesanteur de l'étoile, c'est université éphémère, attention. On est bien d'accord. On n'est pas là pour rigoler. Si vous tombez sous l'effet de la pesanteur, vous accélérez, ça devient, bon, il se passera des choses avant, mais ça se contracte en un point. Combien de temps il faut pour faire ça? Ben, c'est pas compliqué. On va regarder la masse de l'étoile. On va dire que c'est son volume. Son volume fois sa masse volumique moyenne. Et puis, en faisant une analyse dimensionnelle de ça, on fait apparaître un temps caractéristique de chute libre qui va dépendre de la masse volumique moyenne de l'étoile. Notre Soleil, c'est 1,4 g par centimètre cube. C'est un peu plus dense que l'eau, mais pas beaucoup. L'eau, c'est 1 g par centimètre cube. La masse volumique moyenne du Soleil, c'est 1,4 g par centimètre cube. Et quand on met des nombres dans cette petite relation de temps de chute libre, on trouve que si la pression disparaît dans le Soleil, en 20 minutes, 1100 secondes, il s'effondre sur lui-même. Vous regardez le Soleil 20 minutes, il est toujours là, donc il y a un truc qui équilibre. Donc il ne peut pas y avoir que la gravité. Vous voyez comment on le constate ? C'est même pas besoin d'attendre que les grands-pères vous disent « Ah oui, quand j'étais vieux, j'ai déjà vu le Soleil, quand j'étais jeune plutôt, j'ai vu le Soleil. » Il suffit d'attendre 20 minutes et de constater qu'il est toujours là. Ça veut dire qu'il y a une force qui s'oppose à la gravité pour que le Soleil ne s'effondre pas. Et cette force, c'est la force de pression du gaz qui est chauffé par le... par quoi ? Ah, je vous pose la question. Pourquoi il est chaud, le gaz, alors ? Pourquoi il est chaud ? Maintenant, on a compris l'idée. On a l'étoile, il y a sa gravité qui veut la ramasser, la tasser le plus possible. Puis il y a la pression qui dit « Ah non. Moi, ça rigole pas. Si on m'appuie dessus, le gaz réagit, comme la pompe à vélo. » Oui, mais un gaz qu'on comprime, il chauffe. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ? Si le Soleil est stable, je le constate, parce qu'il y a une force qui s'oppose à la gravité, et s'il n'y avait pas de force, en 20 minutes, il n'est plus là. S'il y a une force qui s'oppose à la gravité, et que ce soit par exemple la pression d'un gaz, cette pression doit augmenter quand on s'enfonce dans le Soleil. Bon. Si la pression augmente, qu'est-ce qui va augmenter encore ? La température du gaz. Bon, ça c'est, on fait l'hypothèse que le gaz solaire, il est probablement assez différent de l'air. Hein. C'est un gaz d'abord très chaud, qui est ionisé. Bon, il y aurait des discussions à faire là-dessus. Mais imaginons, c'était les premiers raisonnements qui ont été faits, qui ne sont pas si mauvais. Imaginons qu'ils se comportent comme les gaz habituels. Je comprime, c'est plus chaud. Donc la température du Soleil, elle augmente avec la profondeur. Il fait plus chaud au centre qu'au bord. Oui, mais quand il fait plus chaud au centre qu'au bord, quand il fait plus chaud ici que là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de l'énergie, de la chaleur, il y a de l'énergie qui est échangée de celui qui en a, le chaud, vers celui qui n'en a pas, le froid. On se colle le cul au radiateur pour sentir le chaud. On a un rayonnement des ampoules, des spots qui m'éclairent. La lumière, c'est de l'énergie, je l'absorbe, ça me chauffe. D'accord ? La chaleur, vous êtes plus chaud que votre environnement, vous chauffez l'environnement. Et vous perdez l'énergie. C'est plus chaud au centre qu'au bord, donc il y a de l'énergie qui va s'écouler du centre au bord, spontanément. Il y a plusieurs processus de transfert. On a parlé du rayonnement, la lumière. Il y a la convection, les mouvements d'ensemble, les grands mouvements d'ensemble d'air, au-dessus d'un radiateur qu'on devrait plutôt appeler un convecteur. Le radiateur, il est chaud. Au voisinage du radiateur, l'air est moins dense parce qu'il est plus chaud. Il va s'élever sous l'effet de la poussée d'Archimède, remplacé par de l'air plus dense et plus froid qui va être chauffé et faire un mouvement, un grand mouvement d'ensemble. Même chose qu'on constate quand il y a des cumulus de beau temps, ils sont souvent au-dessus des endroits sombres, plus chauds, qui vont chauffer l'air un peu, qui va monter, l'humidité va se condenser un peu plus haut, ça va faire un joli petit nuage et ça va retomber. Et ça fera des cellules de convection atmosphérique. Autre mode de propagation d'information, de la chaleur plutôt, la diffusion. Passe à ton voisin. Je suis chaud, je m'agite, celui d'à côté il bouge un peu parce que lui il bouge beaucoup, puis lui il sent que lui bouge, enfin voilà. Et à la fin, il y a l'énergie du premier qui s'agite beaucoup va être transférée de proche en proche vers les voisins. Diffusion, convection, rayonnement. Voilà trois modes de propagation, les trois modes de propagation de la chaleur ou de l'énergie. Le Soleil est plus chaud au centre qu'au bord, l'énergie va se déplacer, va être transportée du centre au bord par l'un de ces modes. Et quand elle arrive au bord, il se passe quoi ? Au bord, il y a le bord du Soleil. On pourrait discuter ce que ça veut dire le bord du Soleil, mais mettons, il y a le bord du Soleil. Et puis après, c'est le vide. Après, c'est plus le Soleil. Et dans le vide, quels sont les modes de propagation de l'énergie ? Le rayonnement, il n'y en a plus qu'un, évidemment, puisqu'il n'y a pas de matière pour faire de la convection, il n'y a pas de matière pour faire de la diffusion. Donc le Soleil brille. C'est tout, vous avez tout compris. Le Soleil brille parce qu'il est chaud, première réponse. Deuxième réponse, le Soleil brille parce qu'il est suffisamment massif pour que sa structure soit dominée par sa propre gravité. Sa stabilité est assurée par l'équilibre entre gravité et pression, ou gradient de pression, variation de pression. Ça impose un gradient de température, une variation de température, plus chaud au centre qu'au bord, qui en retour impose un transport d'énergie du centre au bord. Le Soleil brille. Tout va bien. Vous avez fait de la physique du 19e siècle. Alors maintenant, ça c'est déjà très satisfaisant. on a l'impression de comprendre pourquoi le soleil brille, quoi. Merde, c'est pas une affaire, c'est pas, il brille spontanément. Parce qu'il est très gros. Vous n'êtes pas assez gros pour briller comme le soleil. Vous êtes suffisamment chaud par votre métabolisme chimique pour briller en lumière infrarouge. Parce que vous êtes plus chaud que votre environnement, vous avez une certaine température, plus chaud ou pas, d'ailleurs, on s'en fout. Vous avez une certaine température interne, vous brillez en infrarouge, à 10 microns. Mais pas de la façon, vous n'êtes pas autogravitant. La cause de votre température interne, ça n'est pas votre propre gravité qui impose que... C'est, il y a des processus chimiques dans votre corps, votre métabolisme qui dégage de la chaleur, ça vous chauffe et ça fait tourner votre corps. Alors, pour savoir combien de temps dure une étoile avec un processus comme celui-là, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, c'est pas compliqué. On se dit, je vais prendre le contenu en énergie de l'étoile. Le contenu en énergie, pour l'instant, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle son énergie potentielle gravitationnelle, son énergie de liaison gravitationnelle. Je n'ai parlé que de gravitation pour l'instant. J'ai rien dit. Enfin, j'ai dit fusion avant, mais on l'a pas dit, on l'a dit vite. J'ai pas dit fort. On va y arriver. Donc, son énergie de liaison gravitationnelle qui va être siphonnée par le rayonnement, la luminosité de l'étoile. Ça, c'est des joules. Ça, c'est des joules par seconde, des watts. Ça, c'est le stock. Ça, c'est le débit. Quand vous divisez les euros de votre compte en banque par vos dépenses quotidiennes, en euros par jour, vous divisez des euros par jour, vous avez des jours. Et c'est combien de jours vous pouvez tenir avec votre compte en banque sans apport extérieur au rythme que vous avez dépensé aujourd'hui. D'accord ? Ben c'est ce qu'on fait là. Sauf que là, c'est pour l'énergie du soleil. Et si on fait ça, on met les nombres pour le soleil, on trouve à peu près 20 millions d'années. Donc le soleil, selon ce processus-là, il peut durer, il peut siphonner son énergie potentielle gravitationnelle au rythme où il le fait. C'est ce qu'on constate là. 20 millions d'années. Bon, ben, tout va bien, vous êtes en 1880, 20 millions d'années, c'est bon. Hein. Le seul autre argument pour l'âge de la Terre, c'est la Bible qui vous dit, enfin, les exégèses de la Bible qui vous disent 6 000 ans. Donc vous, avec vos 20 millions, c'est tranquille. En même temps, il y a les géologues, qui sont des casse-bonbons, c'est bien connu, pour les astrophysiciens. Parce qu'ils arrivent et ils disent « Ouais, mais quand même, nous, on voit des trucs pas clairs en géologie. Du genre, on voit des couches. Des couches qui sont des couches sédimentaires, qui s'accumulent, on le sait à quel rythme, c'est très lent. C'est des millimètres par siècle. Et puis, on voit là, cette falaise-là, qui fait 250 mètres de haut, c'est une couche sédimentaire. Avant, c'était la mer, maintenant, c'est plus la mer. Donc, cette couche-là, c'est beaucoup de millions d'années. Mais beaucoup. C'est pas 20, c'est plutôt 200 millions d'années. Et il y a même des indications que la Terre pourrait avoir une ancienneté géologique, pas très précise, parce qu'à l'époque, on n'a pas encore des moyens de datation absolue. Donc on fait des estimations comme on peut, mais qui déjà donnent des âges à la Terre qui sont de l'ordre de la centaine, même plusieurs centaines de millions d'années. Les astros, à côté, vous disent 20 millions. Les astros disent, bon, et la géologie, c'est bon. Hein. Nous, c'est la physique, vous, d'accord, c'est des charlots. Vous. Mais quand même, tout le monde se met à dire que quand même, la Terre, elle est probablement très ancienne, et qu'elle a plusieurs centaines de millions d'années, et même en 1920, quand Jean Perrin écrit un article sur de l'origine de la chaleur solaire, il chiffre l'ancienneté de la Terre à 1 milliard d'années, avec les arguments des géologues, imparfaits. On sait que c'est 4,5 milliards maintenant, imparfaits de l'époque. Il y a quand même un hiatus terrible entre l'ancienneté possible du Soleil et son ancienneté, disons, plausible, réelle, celle qu'on détermine, au moins qu'on essaie d'estimer avec la science. Donc il y a un problème d'énergie dans le Soleil. C'est que son stock d'énergie de liaison gravitationnelle le fait durer 20 millions d'années, mais il faudrait plutôt qu'il dure 1 milliard d'années. Et même maintenant, on le sait, 4,56 milliards d'années. La question difficile n'est donc pas de savoir pourquoi ou comment le Soleil brille. Il brille parce qu'il est chaud, il est chaud parce qu'il est gros. C'est de savoir mais comment il a pu briller à ce rythme-là depuis autant d'années. D'où vient l'énergie ? Alors ça, maintenant vous avez compris l'idée. On peut faire un petit calcul d'ordre de grandeur d'abord. Le Soleil à l'inverse maintenant. Si on connaît son âge, et on connaît le débit d'énergie actuel en disant que c'est le même pendant toute sa durée de vie, ce qui n'est pas tout à fait juste, mais imaginons ça. Ça vous donne une quantité d'énergie qu'a rayonné le Soleil. Le Soleil, il a 10 puissance 57 protons. Il fait 10 puissance 30 kg, 2 10 puissance 30 kg. Le proton, c'est à peu près 1,6 10 puissance moins 27 kg. Il y a 10 puissance 57 protons dans le Soleil. Vous divisez l'énergie totale par le nombre de protons, ça vous fait des joules par proton, et comme ce n'est pas beaucoup de joules, vous mettez ça en électronvolts par proton. On obtient 0,4 mégaélectronvolts par proton. Sur l'ensemble de sa durée de vie, il faut que chaque proton du Soleil ait pu lâcher 0,4 mégaélectronvolts. Mégaélectronvolts. Donc, ça ne peut pas être de la chimie. La chimie, c'est plutôt 1 électronvolt par proton, par liaison, par réaction. Donc, ce n'est pas de la chimie. Le Soleil, ce n'est pas du charbon qui brûle. ou du ce que vous voulez qui brûle. C'est pas de la chimie. C'est pas de la gravitation, on vient de le faire. La gravitation, ça va lâchera plutôt l'ordre de grandeur de kiloélectronvolts, 2000 électronvolts par proton. Il ne vous reste plus qu'une seule source, hein, maintenant que vous avez pigé que l'énergie nucléaire était là. L'énergie nucléaire. Et Jean Perrin dit, bon, ben, il ne sait pas encore trop, 1920, mais il dit, ça pourrait être du radium qui se désintègre. On a compris que la désintégration du radium, merci Madame Curie et collègues, on a compris que ça libérait une quantité considérable d'énergie, bien plus considérable que dans les réactions chimiques. Et on comprend ensuite que ce n'est pas des réactions de désintégration du radium ou de quelque chose comme ça, de fission, mais bel et bien des réactions de fusion quand on réalise que le Soleil, ce n'est pas du radium, c'est de l'hydrogène. Et que surtout Hans Bethe et Arthur Eddington écrivent les équations qui vont régir ce qui se passe au cœur du Soleil. Parce que oui, après tout, s'il fait chaud au cœur du Soleil, il fait comprimé, il fait dense aussi, la matière est proche l'une de l'autre. Pourquoi n'y aurait-il pas des réactions de fusion après tout? Les conditions sont favorables. Il faut faire chaud pour qu'il y ait des réactions de fusion, de sorte qu'on puisse pousser, approcher entre les nucléons, notamment les protons, pour qu'ils se lient entre eux, en dépit de leur répulsion électrostatique. Il faut quelque chose qui les approche. La pression et la température qui les agitent, qui leur donnent une énergie de mouvement importante. Donc on est arrivé à la conclusion que la source interne d'une étoile, ce qui lui permettait de briller durablement, c'est les réactions de fusion thermonucléaire. Et donc souvent, j'insiste là-dessus, parce que souvent on voit... Les étoiles brillent parce qu'il y a des réactions nucléaires en leur cœur, c'est faux. Les étoiles brillent parce qu'elles sont chaudes, et elles sont chaudes parce qu'elles sont grosses. Les étoiles brillent longtemps parce qu'il y a des réactions, longtemps, avec à préciser ce que ça veut dire longtemps, des milliards d'années, une étoile comme le Soleil, parce qu'en leur cœur, il y a des réactions de fusion thermonucléaire. Donc l'énergie d'une étoile, c'est des réactions thermonucléaires. Donc voilà comment ça se passe, enfin grossièrement schématisé. Deux protons réagissent, poum. Ça fait un noyau de deutérium, ça émet un positron, ça c'est pour conserver la charge. Le positron, c'est un anti-électron, il va s'annihiler avec un électron pour faire de la lumière. Il y a un neutrino aussi qui est émis, ça fait un noyau de deutérium. Donc proton plus proton donne deutérium plus proton donne hélium-3, hélium-3 plus hélium-3 donne hélium-4 plus 2 protons. Vous avez au départ, on va leur donner l'équation bilan, ça c'est ce qu'on appelle la chaîne proton-proton-1, on part que de protons, le Soleil n'est fait, première approximation, que de protons, que d'hydrogène, le noyau de l'hydrogène, c'est le proton, et par des réactions successives, on peut former un peu de deutérium, un peu d'hélium-3, mais surtout de l'hélium-4. L'hélium-4 est un noyau pair-pair, un noyau très stable, très stable. Les autres le sont moins. Du coup, moins liés. Et donc, ça veut dire qu'on va accumuler l'hélium-4. On vient de trouver une réaction qui, déjà, à partir d'hydrogène, nous forme de l'hélium-4. On s'en fout, l'hélium-4, il n'y en a pas beaucoup sur Terre, ce n'est pas utile à la vie, mais on vient de construire le premier noyau à partir d'une matière première qui est que des protons, que de l'hydrogène. Alors voilà, en fait, les trois cycles de réaction proton-proton. La première, proton-proton, donne deutérium, une autre notation. Ça, c'est l'essentiel du temps. 99,76% des réactions, c'est ça. Il y a un petit peu qu'un autre truc. Proton plus deutérium donne hélium-3. D'accord. Ça, c'est deuxième réaction. 83% du temps, ça fera ça. 16% du temps, ça fera ça. Moi, je vous ai parlé de proton-proton-1, qui est la majoritaire des majoritaires. C'est celle qu'on cite souvent, mais il y a toutes ces autres réactions, vous voyez, qui sont plus compliquées, qui font intervenir d'autres éléments. Hélium-3 plus hélium-3 donne hélium-4 et 2 protons. Le bilan de cette équation, l'équation bilan, j'additionne tout et j'équilibre. Ces 4 protons donnent un noyau d'hélium-4, 4 nucléons ont donné 4 nucléons, plus 2 anti-électrons, plus 2 neutrinos, et 26 mégaélectronvolts d'énergie. Beaucoup, des millions d'électronvolts pour une réaction, encore une fois, où la chimie donne plutôt de l'électronvolt pour une réaction. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de réactions pour avoir beaucoup d'énergie. Et en pratique, la différence de masse... C'est-à-dire que cette énergie, c'est 26 mégaélectronvolts, c'est de la masse qui a été perdue. La masse de 4 protons, c'est moins, excusez-moi, c'est plus que la masse d'un hélium-4, plus les neutrinos, plus le reste. Et cette différence, E égale MC2, c'est cette énergie qui est libérée. Ça correspond à la disparition chaque seconde dans le Soleil de 5 millions de tonnes. Chaque seconde, le Soleil s'allège de 5 millions de tonnes qui sont transformées en énergie. C'est-à-dire 5 plateformes pétrolières par seconde. Toum, 5 de plus. 5 de plus. Bon, le Soleil, il pèse beaucoup de plateformes pétrolières, donc ça ne change pas beaucoup sa masse. Pas beaucoup, un peu. Mais c'est cette énergie de masse qui est transformée en rayonnement qui va être propagée du centre au bord lentement. Alors, Du centre-bord lentement, oui, on va le voir tout à l'heure, lentement, mais pas que, parce que ces particules qui sont ici, les neutrinos, le reste, ça va être de la lumière essentiellement, ça va mettre très longtemps pour sortir. Typiquement, la lumière est mise au cœur et qui va chauffer tout le soleil et émerger sous forme de lumière visible et qui est émise sous forme de lumière de très haute énergie, de rayonnement gamma au cœur du soleil, elle met typiquement 100 000 ans pour sortir du soleil. L'énergie déposée par la réaction, mais 100 000 ans pour sortir. La lumière qu'on voit apparaître là est issue de réactions qui en sont produites il y a 100 000 ans. Les neutrinos sont des particules qui interagissent extrêmement peu avec la matière. Ils ont une masse quasiment nulle, une charge électrique nulle, et ils ne sont pas sensibles à l'interaction forte. Ils interagissent que par l'interaction faible qui est faible. Donc, en gros, un neutrino qui est émis au centre du Soleil, il traverse le Soleil en ligne droite, comme si le Soleil était transparent, alors qu'il est opaque à la lumière. Il est lumineux, mais on ne voit pas à l'intérieur. La lumière que l'on voit, c'est celle de la surface, qu'on appelle photosphère. On ne voit pas la lumière de l'intérieur du Soleil. On ne voit pas à travers le Soleil. Mais en neutrino, on voit à travers du Soleil. Ils sont émis tout droit et ils arrivent sur Terre. On va en reparler tout à l'heure. Et ces neutrinos, ben, ils portent témoignage de ce qui se passe au centre de la Terre, si vous savez les observer. Alors, juste une petite incise physique, parce que quand même, elle est marrante. Tout à l'heure, on a dit qu'on fait des réactions de fusion, on y croit, les ordres de grandeur sont là, mais enfin, c'est pas parce que c'est pratique que c'est vrai. Enfin, en tout cas, que ça se produit. Au centre du Soleil, vous pouvez commencer à faire un petit modèle, vous dites blabla, je calcule. Combien il fait au centre du Soleil ? Avec votre modèle, il fait une masse solaire, donc 2 10 puissance 30 kg, pression, vous faites un petit calcul, blabla, hop, vous obtenez une pression, une température. L'ordre de grandeur de la température, 15 millions de degrés. Est-ce qu'à 15 millions de degrés, on sait faire des réactions nucléaires ? La question, elle se pose comme ça. 15 millions de degrés et avec la densité au centre du Soleil. La masse volumique au centre du Soleil, c'est 150 grammes par centimètre cube. C'est pas mal, hein, l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. La matière la plus dense terrestre qu'on connaît, c'est 22 grammes par centimètre cube, c'est l'osmium. 150, c'est pas mal. C'est plutôt plus dense que ce qu'on connaît sur Terre, bien sûr. Mais c'est pas extraordinaire. C'est pas comme 2 10 puissance 30 kg, c'est énorme. C'est pas comme 10 puissance 26 watts pour la luminosité, qui pour nous, c'est juste incroyable. Ou 15 millions de degrés, qui est une température énorme. Donc 150 grammes par centimètre cube, 15 millions de degrés, est-ce qu'on peut faire ces réactions de fusion ? Est-ce que les conditions sont favorables ? Je compare par exemple avec Équiterre. Température qu'on va atteindre dans l'Équiterre, c'est 200 millions de degrés. Ce n'est pas 15 millions, c'est 200 millions. Alors pourquoi ça marche à 200 ? Pourquoi il faut 200 ? Dans l'Équiterre, la masse volumique, elle n'est pas 150 grammes par centimètre cube. Elle est plutôt... alors en grammes par centimètre cube, je n'ai pas idée parce que c'est très petit, mais en nombre de particules par centimètre cube, c'est quelques centaines de milliers de particules par centimètre cube. Dans l'air de cette pièce, c'est des milliards de milliards et même des centaines de milliers de milliards de milliards de particules par centimètre cube. Et là, dans ITER, il y en aura quelques centaines de milliers, quelques millions par centimètre cube. Dans ITER, le gaz qui va réagir sera très, 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 très peu dense, beaucoup moins dense que l'air de cette pièce. Et a fortiori, beaucoup moins dense que le centre du Soleil. C'est pour ça que nous, il faudra qu'on ait des températures plus élevées qu'au cœur du Soleil. Et les 15 millions de degrés au cœur du Soleil, quand même, il faut se poser une question. Alors voilà un petit dessin technique. On va rigoler. Vertical. Alors, horizontalement, d'abord, c'est la distance qui sépare le noyau. Là, c'est le centre du noyau, le bord du noyau. Et là, c'est l'énergie d'interaction entre le noyau et un merdier extérieur. Alors, si le merdier, il n'est pas extérieur, mais il est intérieur, en fait, cette limite-là, elle devrait être très, 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 très basse en dessous, ben, le merdier qui est dans le noyau, un proton, il est lié au noyau, il est attiré. L'énergie de liaison, elle est négative. Il est bouffé, il est dans le noyau. Donc, le potentiel d'interaction, l'énergie d'interaction, elle est très négative. Là, ça a été coupé ici, mais ça devrait être très, 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 très bas en dessous. Et à l'extérieur, qu'est-ce que je vois du noyau à l'extérieur ? Je vois un machin qui a une charge électrique positive, il n'y a que des protons. Et des neutrons qui n'ont pas de charge. Donc si je suis moi-même un autre noyau, un proton par exemple, je vais sentir la charge électrique. Et je vais la sentir d'autant plus que je suis proche. Et je vais sentir une répulsion. Et répulsion, ça veut dire une difficulté à m'approcher du noyau, parce que je suis repoussé par la charge électrique positive qu'il porte, qui est la même que la mienne. Et du coup, ça se traduit par cette espèce de colline. Ici, vous êtes loin, vous ne sentez rien, le noyau n'est pas là. Électriquement parlant, vous le sentez peu, vous vous approchez, vous le sentez de plus en plus, il y a une espèce d'énergie à dépenser pour vous approcher du noyau. De la même façon, si vous voulez passer à travers ce mur, vous allez dire, mais si vous tapez plus fort, vous allez sentir le mur vibrer un peu, puis si vous passez vraiment fort, vous allez passer à travers. Il y a une barrière de potentiel, on appelle ça. Là, c'est une barrière de potentiel de répulsion électrique et pas une barrière de potentiel d'une autre nature, mettons mécanique, on va dire ça comme ça pour faire plus court, mais il y aurait à dire. Donc là, on a une barrière de Coulombienne répulsive. Ça veut dire que le noyau, avant de tomber dans le puits où il sera gentiment lié avec tout le monde, le proton qui s'approche du noyau, avant d'être dans le puits, il faut d'abord qu'il passe une espèce de colline infernale de répulsion électrique, et après, il peut tomber dedans. Alors, si on était en physique classique, vous imaginez, ben, ça, c'est l'arrivée, vous êtes vainqueur du Tour de France, et là, vous êtes le col. Vous montez, boum. Si vous n'avez pas l'énergie, si votre énergie, elle est là, ben, vous allez monter et redescendre. Si vous avez plus d'énergie, vous allez monter et redescendre. Vous allez être repoussé. Si vous vous jetez sur le mur un peu vite, vous allez rebondir un peu fort. Si vous jetez contre le mur plus vite, vous allez rebondir plus fort. Si vous jetez contre le mur vraiment vite, vous passez à travers. D'accord ? C'est exactement pareil ce qu'on a envie de se dire. Alors, la hauteur de cette barrière, pour la franchir, il faudrait se dire, eh bien, il suffit que les noyaux ils aient une énergie de mouvement suffisante pour passer la barrière. Quelle est la hauteur de la barrière ? C'est la répulsion de deux noyaux, de deux protons, on va dire, à leur distance minimum pour former un noyau, 10 puissance moins 15 mètres. Si on prend deux protons, qu'on les fait se toucher à 10 moins 15 mètres, ils sont en contact, disons, si on les voit comme des petites billes, ploup, ça fait le noyau. Super. Combien il faut payer pour ça ? Il faut payer 1,4 mégaélectronvolts. Bon, on est toujours dans les noyaux, donc c'est toujours les mégaélectronvolts. Est-ce qu'on peut le faire avec de la température ? En agitant beaucoup. Quelle température il faut pour que ça soit 1,4 mégaélectronvolts ? Eh bien, il faut à peu près 10 milliards de degrés. Ben, il se fout de notre gueule, on a dit 15 millions. Ça, c'était une question importante. Parce que les modèles du Soleil disaient 15 millions de degrés, et si on réfléchit juste comme ça, on se dit, mais ça ne peut pas marcher. Il faut 10 milliards et 15 millions. Ça ne marche pas. C'est pas juste, il faut 25 millions, on trouve 15. Peut-être on s'est trompé un peu. Non, il faut beaucoup plus. Alors on pourrait se dire, ah oui, mais attends, on est con. Dans un gaz, à une température donnée, les particules n'ont pas toutes la même énergie. Il y en a beaucoup qui ont peu d'énergie, il y en a moyens qui ont moyen d'énergie, et il y en a très très peu qui ont beaucoup d'énergie. Il y a une distribution qu'on appelle de Maxwell-Boltzmann de l'énergie des particules dans un gaz en fonction de l'énergie. Plus l'énergie est élevée, moins il y en a. Mais il y en a un peu. Peut-être que c'est ce petit peu là-bas, très très grande énergie. Alors 15 millions de degrés, l'équivalent énergétique de cette température, c'est le kilo électronvolt, 1000 électronvolts. Et la fraction de particules qui ont, 1000 qui ont 1 million d'électronvolts dans un gaz où l'énergie moyenne, c'est 1000 électronvolts, cette fraction, c'est la loi de Boltzmann qui nous dit ça, c'est exponentielle moins 1000, ça veut dire 10 puissance moins 400 particules. Ça veut dire que si vous avez 10 puissance 400 particules, il y en a une de particules qui ont comme énergie moyenne 1 kilo électronvolt, 15 millions de degrés, il y en a une qui aura l'énergie qu'il faut pour passer la barrière de Coulomb. 10 puissance 400 particules, c'est plus que dans l'univers observable. Il y en a 10 puissance 80. Et le Soleil, il y en a 10 puissance 57. C'est-à-dire, ça, c'est comme l'homéopathie. Il y a zéro particule dans le Soleil qui a l'énergie qu'il faut pour que ça marche. Même en tenant compte de la distribution, il y en a zéro. Donc encore une fois, on se dit, merde, on ne va pas le faire. Alors le gars qui a trouvé la réponse, c'est M. Gamow, Georges Gamow, qui a dit, eh ben les gars, il y a la physique quantique, tadam ! Et dans la physique quantique, il y a un truc qui s'appelle l'effet tunnel. Et l'effet tunnel, c'est la capacité pour un objet quantique à traverser tunnel, à traverser une barrière de potentiel sans la franchir, comme s'il passait à travers. Je ne rentre pas dans l'état de l'effet tunnel, c'est un cours complet de 2 heures de l'université éphémère d'année prochaine. Ah, si elle est toujours là. Donc, grâce à ce phénomène quantique, on peut comprendre qu'à 15 millions de degrés, il y a des particules qui réagissent quand même. C'est grâce à cet effet tunnel. Sans lui, il n'y a pas de réaction nucléaire, même s'il en faut les, même si on se dit, en faisant comptant, il en faut. Et donc, tout fait sens maintenant. On a compris qu'à 15 millions de degrés, 150 grammes par centimètre cube, on peut faire des réactions nucléaires. On a compris que ces réactions nucléaires vont produire, à partir d'hydrogène, de l'hélium. Et on va voir la suite. Alors, on a là tout le mécanisme, on a tout compris. On dit ça ne peut pas être autrement parce que sinon le Soleil ne brille pas depuis 4 milliards et demi d'années. Donc, c'est obligatoire que c'est ça. Ça donne une indication qu'on n'est pas mauvais. mais on aimerait avoir la preuve directe. La preuve directe, on les a eues par les neutrinos. Là, ici, une image d'un détecteur de neutrinos qui s'appelle Borexino. Il n'est pas super contrasté. C'est une grosse sphère qui doit faire une dizaine de mètres de diamètre, qui contient plusieurs tonnes d'un liquide scintillant et qui détecte des neutrinos. Des neutrinos du Soleil, on en reçoit à peu près 65 milliards par centimètre carré de Terre et par seconde. Un centimètre carré, c'est la surface de votre ongle de pouce qui reçoit chaque seconde 65 milliards de neutrinos. 65 milliards, 65 milliards, 65 milliards tout le temps. Même la nuit. Parce que la nuit, on dit, là, non, il y a le Soleil. Mais la nuit, ben, le Soleil, j'ai dit, est transparent aux neutrinos. La Terre, c'est 12 000 km. Hein. Le Soleil, c'est 700 000 km, il est transparent. La Terre est transparente, il passe à travers. Donc, quand il fait nuit, on est aussi éclairé par le neutrino solaire. Et dans un détecteur très sophistiqué comme celui-ci, il y a à peu près chaque jour, dans 300 tonnes, donc beaucoup de centimètres carrés, 125 neutrinos qui nous font la grâce de s'arrêter dedans. 125 par jour et par 300 tonnes, quand il y a 65 milliards de neutrinos solaires par centimètre carré et par seconde. Vous voyez l'évanescence, si j'ose dire, des neutrinos. Sauf que ces neutrinos, en les observant, on peut mesurer leur énergie, les qualifier, dire plein de choses et valider et vérifier que c'est bien ces réactions auxquelles nous pensions, nous, Gamow, Bethe, Eddington et d'autres ensuite, qui ces réactions se produisent bien au cœur, comme on le dit, avec les taux de réaction, le rythme de réaction que l'on prétend pour expliquer tout ce que l'on doit expliquer du Soleil, sa luminosité, sa durée de vie, etc. Donc on a une preuve directe de l'observation, une preuve directe plutôt des réactions nucléaires qui se produisent au cœur du Soleil. Alors maintenant, vous avez tous les éléments pour comprendre l'évolution d'une étoile. Une étoile, alors oui, j'ai quand même pas mis la... Je vais pas mettre la définition, hein. Excusez-moi, je vais mettre ça. Une étoile, c'est quoi? C'est pas une grosse sphère de gaz chaud, première intention, pas mauvaise. C'est un réacteur à fusion thermonucléaire, confiné et stabilisé par sa gravité. C'est ça. Quand vous voulez briller, vous dites pas une étoile, c'est un truc chaud. C'est un peu plus cryptique, mais vous voyez, on peut y arriver. Et bon, il y a encore des choses à dire. Alors, une fois que vous avez ça en tête, vous avez compris qu'une étoile, ça va évoluer. Ça peut évoluer. Alors, comment ça va évoluer? D'abord, imaginons que l'hydrogène commence à disparaître. Bah forcément, parce que on a dit 15 millions au centre, mais au bord, c'est 7000 degrés, 5000 degrés, 6000 degrés. Donc, quelque part, les réactions nucléaires vont s'arrêter, parce que quand même, faut pas déconner. Quand il n'y a pas assez de température et pas assez de densité, ça se fera pas. Donc, il y a une zone dans le Soleil, interne, qui correspond à peu près en masse à 10% de la masse du Soleil, un peu moins, quelque chose peut-être même comme 5 ou 6% de la masse du Soleil, où il y a les réactions nucléaires. Et le reste, ça ne subit pas de réactions nucléaires. Donc dans cette zone-là, il y a l'hydrogène qui se transforme en hélium, qui donne de l'énergie, et cette énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compense celle qui est rayonnée par la surface. Je dis bien, elle compense celle qui est rayonnée. Parce que si les réactions nucléaires disparaissent, le Soleil brille quand même, vous l'avez compris. Il brille parce qu'il est chaud. Donc les réactions nucléaires ne sont pas nécessaires à ce qu'il brille. Elles sont nécessaires pour rembourser ce qui est en permanence rayonné par l'étoile, comme votre salaire rembourse, si j'ose dire, en permanence ce que vous dépensez quotidiennement. Et donc, pour avoir la durée de vie de votre compte en banque, c'est pas juste les euros divisés par les euros par jour. Il faut tenir compte du fait qu'il y a de l'argent qui rentre dedans. D'accord ? Qui vient du salaire, du vol, des emprunts, enfin, vous débrouillez. D'accord ? Il y a une source d'énergie, il y a une source supplémentaire. Donc, dans le cas du Soleil, le centre est plus chaud. Il y a des réactions nucléaires qui s'y passent, mais qu'au centre, dans une région centrale. Et dans cet endroit, l'hydrogène finira par manquer. Il y en avait une certaine quantité, mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et quand il n'y a plus d'hydrogène, il n'y a plus de réaction nucléaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais s'il n'y a plus de réaction nucléaire, le Soleil, il brille quand même. Mais l'énergie qui est rayonnée, elle n'est plus compensée par le compte en banque nucléaire. Alors, d'où elle vient? Eh bien, du compte en banque que nous avions imaginé au début, du compte en banque gravitationnel. L'étoile va rayonner en prenant l'énergie sur son énergie de liaison gravitationnelle. Et ça veut dire quoi en pratique? L'étoile va se contracter et s'échauffer. Le cœur de l'étoile va se contracter et s'échauffer. Se contractant et s'échauffant, peut-être y a-t-il la possibilité que brûle ou réagisse par fusion thermonucléaire. Ben, ce qui reste, qu'est-ce qui reste de l'hydrogène? Ben, l'hélium. Vous avez un cœur d'hélium pur ou quasiment, et cet hélium peut réagir pour former autre chose. Quoi? Ben, 4 plus 4, ça fait 8, et 4 plus 1, ça fait 5. 4, c'est l'hélium, 1, c'est l'hydrogène, 4 et 4, c'est hélium-hélium. Sauf que 8 et 5, les deux éléments qui ont 8 nucléons et 5 nucléons, sont instables. Il y a une petite subtilité, là. 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. C'est ça la bonne réaction. C'est ça que M. Fred Hoyle a imaginé dans les années 40 pour comprendre comment on passait aux éléments suivants. Une étape cruciale. Parce que 4 plus 4, ça fait 8, et 4 plus 1, ça fait 5. C'est des éléments instables. On ne devrait pas aller au-delà de l'hélium. Mais il y a du carbone, il n'y a qu'à regarder ici. Puis il y a plein d'autres trucs. Mais Hoyle a compris qu'il y avait une réaction nucléaire qui s'appelle la réaction 3-alpha, trois noyaux d'hélium-4 qui peuvent réagir dans des conditions particulières. Ils ne réagissent pas tous d'un coup ensemble. Hein. C'est 2, 4 plus 4 qui donne 8, qui est instable, du beryllium-8. Mais s'il en arrive un autre avant que le beryllium-8 se soit désintégré, 8 plus 4, ça fait 12, et hop, vous avez un noyau de carbone-12. Il y a des conditions de densité, de température, où cette réaction 4 plus 4 donne 8, et très très vite. 8 plus 4 donne 12, très très vite, donc très très chaud et très très dense. 8 plus 4 donne 12, vous avez du carbone-12. Donc vous remplacez la combustion de l'hydrogène en hélium par la combustion de l'hélium en carbone, qui donne de l'énergie, qui va compenser celle qui est rayonnée. Et le raboutage, le pré-relais, il est fait entre l'hydrogène qui brûle et l'hélium qui brûle, il est fait par la contraction gravitationnelle du cœur de l'étoile. Du cœur de l'étoile. Parce que ce cœur devient plus chaud, plus lumineux, l'étoile va trouver un nouvel équilibre en gonflant un peu. Elle va s'étendre un peu et même se refroidir. Mais ça, c'est encore une super subtilité. Mais elle va gonfler un peu. Et on va passer d'une étoile comme le Soleil, qui a sa taille, qui est une étoile normale. Il va gonfler un peu. On va trouver une étoile géante. Un peu, ça veut dire 10, 20, 30 fois son rayon actuel. Une géante, un peu plus froide, rouge. Cet passage de la fusion de l'hydrogène en hélium à la fusion de l'hélium en carbone, cet épuisement de l'hydrogène au centre de l'étoile est marqué par le passage de l'étoile dans un état qui est l'étoile normale, le Soleil habituel, en une étoile géante, plus grosse, et rouge, là où le cœur de l'étoile lui-même s'est contracté et échauffé et a allumé les cendres, l'hélium 4, du cycle de fusion nucléaire précédent. Et là, on a tout le moteur de l'évolution des étoiles. Quand le combustible s'épuise, donc je récapitule, le nombre de réactions diminue. Il y a moins d'énergie produite par les réactions nucléaires, donc il faut prendre de l'argent, de l'énergie, ailleurs que dans le compte en banque nucléaire. L'autre compte en banque, c'est le compte en banque gravitationnel. Ce compte en banque gravitationnel, eh bien, va faire que le cœur va se contracter et s'échauffer. Ça pourra éventuellement, si la contraction et l'échauffement sont suffisants, déclencher la fusion de l'hélium. Suffisant, ça veut dire quoi ? Il faut que ça appuie, il faut que l'étoile appuie assez fort. Une grosse étoile. Une étoile comme le Soleil va pouvoir déclencher, selon les modèles des astrophysiciens, va pouvoir déclencher la fusion de l'hélium en carbone. Mais une étoile qui aurait la moitié de la masse du Soleil brûlera l'hydrogène en hélium, et c'est tout. Et après, elle va se contracter et s'échauffer, mais pas suffisamment pour brûler l'hélium en carbone. Et cette étoile va former une petite étoile, va perdre un peu de sa masse de surface, va former une petite étoile qu'on appelle une naine blanche, et qui restera là, à se refroidir sans source interne. Elle va briller en pompant sur sa chaleur interne, en se refroidissant sur des échelles de temps considérables qu'on estime à des milliers de milliards d'années, des milliers de milliards d'années, plus long que l'âge de l'univers actuel. Le Soleil, lui, va brûler l'hélium en carbone, et puis ensuite, il n'est pas assez massif, lui, pour brûler le carbone en autre chose. Quand l'hélium viendra à manquer, le centre va se contracter et s'échauffer, suffisamment ou pas ? Pas suffisamment, ça s'arrête là. Le Soleil s'arrêtera là et deviendra une naine blanche lui aussi, qui va briller très faiblement, comme un millième de Soleil actuel, mais pendant des milliards d'années, en perdant sa chaleur, en se refroidissant. Il n'y a plus de source interne nucléaire pour compenser cette perte. Il pompe sur son carburant, sur son compte en banque thermique, sur son compte en banque thermique. Une étoile plus massive va pouvoir brûler du carbone en autre chose. Alors, il y a du carbone qui va brûler aussi, c'est ce qui est indiqué là. Là, ici, il y a le nombre de protons, le nombre de neutrons. Donc, on passe de l'hydrogène à l'hélium d'abord. Après, on passera de l'hélium au carbone via tout un petit cycle. Carbone, carbone, azote, oxygène. Et puis ensuite, on passera du carbone, il y aura une intermédiaire grâce à l'oxygène vers le néon, vers le magnésium, vers le silicium, ou du carbone au silicium. Et puis du silicium au fer, 2 silicium, 2 fois 28, c'est 28 nucléons, ça fait 56, ça fait du fer. Donc on va enchaîner des cycles de fusion. Quand le cycle précédent, le combustible du cycle précédent s'épuise, ça déclenche le cycle suivant par contraction et échauffement du cœur, si l'étoile est assez massive pour que cette contraction et échauffement permettent de déclencher le cycle suivant. Quand vous voyez comment vont évoluer les étoiles, en enchaînant des cycles de fusion. Et évidemment, il va se passer une chose curieuse à un moment particulier de la vie de l'étoile. On a dit, prenons une étoile très massive. Il faut qu'elle soit assez massive pour aller jusqu'à la fusion du silicium en fer. Vous avez hydrogène-hélium, bon, un certain temps, hélium-carbone, très bien, avec azote, oxygène, très bien, après néon, super, après magnésium, très bien, après le néon-magnésium, silicium, combustion du silicium en fer. Mais vous, chaque fois qu'on fait ça, vous rappelez la courbe là, d'énergie de liaison ? On est de plus en plus haut, on a des éléments de plus en plus à droite, des noyaux de plus en plus gros, on est de plus en plus haut, on retire de moins en moins d'énergie de chaque réaction. Parce que la pente, au début, elle est très raide, et à la fin, on s'approche du maximum. Chaque réaction produit moins d'énergie. Pour rayonner toujours autant, et en pratique même plutôt plus, il faut de plus en plus de réactions, parce que chaque réaction produit moins. Donc, première conséquence, chaque phase dure de moins en moins longtemps. Si, par exemple, alors c'est dans le petit diagramme qui est là, si on prend une étoile de 20 masses solaires, la combustion de l'hydrogène à 37 millions de degrés prend 8 millions d'années. Alors, pourquoi 20 masses solaires, elle aura 8 millions d'années de durée de vie quand le Soleil, avec sa une masse solaire, par définition, il aura 4 milliards, 10 milliards d'années de durée de vie ? Eh bien, c'est parce que la température centrale étant plus élevée, l'étoile va consommer plus vite. Elle est plus élevée. Pourquoi ? Parce que l'étoile est plus massive. Le gaz central est plus comprimé et plus chaud. Donc, une étoile plus massive sera plus chaude au centre, brûlera son hydrogène plus vite. En pratique, une étoile qui est 20 fois plus massive que le Soleil dure pratiquement 1000 fois moins. Ça varie très très vite. Ça varie comme le cube de la masse. Une étoile 10 fois plus massive que le Soleil va durer typiquement 1000 fois moins. 1000 fois moins longtemps. La combustion d'hydrogène va donc être d'abord, un, plus courte pour une grosse étoile que pour une petite étoile. Deux, pour toutes les étoiles, chaque cycle est incrémentalement plus court. Le premier, l'hydrogène, sera le plus long. Le second, l'hélium, sera un peu plus court. Le troisième, s'il est là, le carbone sera encore plus court, etc. Et pour une étoile de 20 masses solaires qui va aller jusqu'à la combustion du silicium, qui peut aller jusqu'à la combustion du silicium, la première période, 8 millions d'années, la combustion de l'hydrogène. La seconde, plutôt 1 million pour l'hélium. Et regardez, la combustion du silicium dure 3/100 d'année. Ça veut dire 10 jours. 10 jours. Alors qu'elle a passé des millions d'années à brûler son hydrogène. Donc les phases sont de plus en plus rapides, et ça c'est dû à quoi ? La température centrale est plus élevée, donc le rythme des réactions sera plus élevé, et en plus de ça, il faut beaucoup plus de réactions pour faire la même énergie, et même en pratique un peu plus, parce que l'étoile est plus brillante à la surface, il a fallu compenser ce qui revenait par la surface, et donc comme chaque réaction produit moins par réaction, parce qu'on est en train de grimper le long de la courbe d'énergie de liaison par nucléon, on a de moins en moins d'énergie par réaction. Et donc, il en faut plus pour faire, disons, la même quantité et en pratique un peu plus. Et à la fin, on obtient une étoile, vous voyez, dont la durée de vie, c'est en gros, la durée de vie totale, c'est en gros la combustion d'hydrogène plus la combustion d'hélium. Et le reste, ça compte pratiquement pour zéro dans la durée totale de la vie de l'étoile. Mais ce sont des phases très importantes parce que silicium devient fer. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que fer peut faire quelque chose ? Le fer, il est au maximum de la courbe d'énergie de liaison. Fer plus fer donne un truc, ça ne produit pas d'énergie. Ça en consomme. Et l'énergie, l'étoile, ce qu'elle cherche à faire, si je la personnalise un peu, c'est en permanence essayer de renflouer son compte en banque. Parce qu'elle perd de l'énergie tout le temps. Tout le temps. Parce qu'elle est chaude, elle est chaude parce qu'elle est grosse et autogravitante. Donc elle perd tout le temps de l'énergie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour compenser, réaction nucléaire. Mais là, on arrive, silicium donne fer, il n'y a plus de réaction nucléaire quand on arrive au fer capable de produire de l'énergie. Alors, à ce moment-là, se produit quelque chose qui est un phénomène tout à fait spectaculaire, qui s'appelle une supernova. Pour les étoiles suffisamment massives pour avoir été capables de brûler le silicium en fer. Ce n'est pas tout le monde. Il faut, estime-t-on, des étoiles dont la masse est au moins 8 fois supérieure à celle du Soleil pour atteindre cet état. Là, j'avais pris 20 masses solaires pour l'exemple, mais 8 fois la masse du Soleil, à partir de 8, au-delà de 8 masses solaires, une étoile peut brûler jusqu'à arriver à la formation du fer par fusion du silicium. Et à ce moment-là, se produit une chose embêtante. L'étoile n'a plus de source. Elle brille quand même, et il n'y a plus d'énergie. Entre-temps, c'est passé plein de choses de physique microscopique au cœur de l'étoile, dans lesquelles je ne rentre pas, mais qui font que l'étoile, faute de carburant nucléaire, son cœur va s'effondrer sur lui-même. On avait toujours le même principe, le rayonnement il est quand même là, il faut prendre l'énergie, ben là le cœur va s'effondrer sur lui-même. Et une supernova, il y a un monsieur qui s'appelle Chandrasekhar qui a montré une chose importante. Voilà, pour une étoile de grande masse, grande ça veut dire au-delà de 8 masses solaires pour arriver à la fusion du silicium en fer, eh bien les cycles de fusion aboutissent au fer qui est énergétiquement stérile. Et M. Chandrasekhar, un astrophysicien indien qui a émigré aux États-Unis, a montré qu'une masse autogravitante et énergétiquement stérile ne peut pas dépasser 1,4 fois la masse du Soleil. Si le cœur du Soleil, au début, c'était du silicium, on vient d'arriver, la fusion du silicium commence, on a un petit cœur de fer, 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, 10 kilos, 100 kilos, 10 tonnes, etc. Ce cœur de fer grossit. Quand il atteint 1,4 masse solaire, ce cœur de fer est instable. Crunk, il s'effondre sur lui-même. Et quand il s'effondre sur lui-même, alors là, c'est une catastrophe. Il s'effondre sur lui-même en chute libre. Il met, combien de temps on a calculé pour le Soleil tout à l'heure ? 20 minutes. Pour le cœur de fer d'une supernova, ce n'est pas 20 minutes. C'est plutôt un dixième de seconde. Vous avez 1,4 masse solaire, poum, qui s'effondre en un dixième de seconde. Et ça s'arrête à quel moment ? Ça ne fait pas un point. Ça va s'arrêter en formant ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Le cœur de fer va s'effondrer pour former une étoile à neutrons. Les noyaux de fer vont être brisés par la lumière du cœur. La température, il y a de la lumière, chaque corps chaud rayonne. Les températures, pour vous donner des idées quand même, les densités, c'est typiquement l'ordre de grandeur, c'est la plateforme pétrolière par dé à coudre, 1 million de tonnes par centimètre cube. Les températures, c'est le milliard de degrés. Donc ça, voilà, c'est des conditions très inhabituelles hein, par rapport à ce qu'on peut faire en laboratoire, même par rapport à une étoile comme le Soleil qui est déjà un objet assez spectaculaire. Et en s'effondrant, le corps chaud à milliards de degrés, il y a des photons, il y a de la lumière qui va casser les noyaux de fer, et le fer est formé de protons et de neutrons, les neutrons d'accord, et protons plus électrons vont s'assembler pour former une réaction qui s'appelle neutronisation. On va former pour gagner de la place. Les électrons n'ont pas disparu, hein. Ils sont juste arrachés des noyaux depuis très longtemps. D'ailleurs, même dans le cœur du Soleil, les électrons sont arrachés des noyaux pour former un gaz, un plasma d'ions, les électrons et les protons, ou les noyaux d'hélium. Et donc, on va avoir une réaction nucléaire électron plus proton donne neutron plus neutrino. Donc, les neutrons, c'est les neutrons, et les protons et les électrons, c'est des neutrons. Ça va former un astre très compact qui fera 10 km, il fera à peu près la masse du Soleil. Il fera 10 km de taille et il sera essentiellement constitué de neutrons. Les neutrinos qui sont émis là, ils se barrent. C'est de l'énergie que l'étoile perd. Vous avez vu que dans tout ce grand schéma d'évolution des étoiles, l'étoile cherche à lutter contre cette perte d'énergie permanente. Comment ? Par fusion, fusion premier cycle, hydrogène, deuxième cycle, hélium, troisième, quatrième. Il n'y a plus rien, ça s'effondre. Elle n'a plus de source d'énergie. Et en plus, il y a une source de perte supplémentaire. La luminosité en neutrinos, le rayonnement en neutrinos. C'est comme les humains, vous cherchez en permanence à lutter contre votre dégénérescence en mangeant. Si vous ne mangez pas, vous mourrez au bout d'un certain temps. Puis à la fin, de toute façon, quoi qu'on fasse. Mais les étoiles, c'est pareil. À la fin, quoi qu'elles fassent, elle a pu tenir un certain temps grâce à ses cycles de fusion. Elle arrive finalement à voir son cœur imploser. Le cœur implose et le reste. Le cœur, il est tombé en un dixième de seconde. Et le reste, son temps caractéristique, le reste, c'est de la matière comme une étoile. C'est beaucoup plus grand. On est dans une géante, voire une super géante rouge. Un astre qui fait quelques centaines de rayons solaires. C'est une énorme étoile, comme Bételgeuse, par exemple. Mettez Bételgeuse à la place du Soleil. La première planète du système solaire, c'est Saturne. Toutes les autres, c'est dedans. Mais ça rigole pas, nous, la Terre. C'est une grosse étoile massive, très grande, très grosse étoile, une super géante. Rouge. Il y en a même une qui est plus grande. Il y en a une dont j'oublie toujours le nom. Elle a un nom un peu obscur, un peu abscon, qui fait 1800 rayons solaires. D'accord ? Ça rigole pas. C'est beaucoup de rayons. C'est une grande étoile. Une grosse étoile, en taille. Et donc, le cœur s'effondre et le reste, qu'est-ce qui se passe ? Lui, il constate qu'au cœur, il y a un astre très compact avec une grande gravité. La matière, elle tombe. Elle tombe. Oui, mais elle tombe dans une gravité très importante, celle d'une étoile à neutrons. La gravité de surface d'une étoile à neutrons, c'est 1 million de gravités terrestres. Ça tombe et ça accélère très très vite. Les vitesses atteintes sont énormes. Et vous avez un objet qui va toute la matière de l'étoile va tomber sur le cœur qui s'est effondré. Le cœur, je peux vous dire, il est rigide. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un machin qui tombe et qui tombe sur un truc rigide? Là, j'y vais du brutal. Hein. C'est un domaine entier de recherche, ce que je vous dis là en deux secondes de manière brutale. Hein. Donc, attention, hein. Ça rigole pas. Ça rebondit sur le cœur. Rebondit. Et un rebond compliqué. Et donc, la matière, elle tombe et ce rebond va inverser le mouvement. Là où le cœur s'effondre, toute l'enveloppe commence à tomber, un peu comme dans les dessins animés. Le gars, il se rend compte qu'il a plus le coyote, là, il a plus le truc. Et il dit « Ah, je tombe ». Il arrive au fond, il rebondit. Mais il rebondit et de l'autre côté, ça lui tombe sur la tête. Vous voyez, déjà, ça commence à être compliqué. Ça fait une interaction compliquée et ça inverse le mouvement. L'étoile explose, le cœur s'effondre et l'étoile explose. Et le résultat de cet objet, ça s'appelle une supernova. Le résultat, beaucoup de milliers d'années après, en fait, pas beaucoup de milliers, même pas un millier d'années, c'est un reste d'une supernova qui a été observée par les astronomes chinois en 1054. On voit ça dans le ciel à cet endroit. On se dit, ah, mais c'est peut-être le reste d'une supernova. On a été regardé. C'est des Chinois, des historiens chinois qui ont été voir dans les archives astronomiques chinoises, ont trouvé la trace d'une étoile invitée, une étoile nouvelle, un objet qu'on ne voyait pas à l'œil nu et qui d'un coup est devenu si brillant qu'on le voyait en plein jour. Je ne parle pas de la nuit où c'était un spot incroyable. Comme une étoile, pas la lune, pas un point brillant, très 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 brillant. On voit ça à la place. Donc on en déduit l'âge de cette supernova, très importante, vous voyez les archives historiques, même quand on fait de l'astrophysique, on se dirait, oui, on est dans les grandes galaxies, les grands machins. Et donc cet objet-là, ça c'est cette matière ici, c'est la matière de l'enveloppe de l'étoile en expansion. Et au cœur, on voit, là c'est une image composite où les couleurs ici, c'est des images mélangées qui ont été prises en infrarouge. Et tout ce qui est en violet ici et le petit machin qui est là, tout ça, c'est pris en rayons X. Et donc, c'est une image composite, elle n'a pas été prise d'un coup, c'est des additions d'images. Et le machin qui est au centre, là, c'est l'étoile à neutrons en rotation rapide sur elle-même, on appelle ça un pulsar. On voit le reste, le cadavre de l'étoile, l'étoile à neutrons. On voit le pulsar en rayons X par son environnement. Ce n'est pas le pulsar qu'on voit, c'est la lumière rayonnée par son environnement proche. Et on voit le pulsar en rayonnement radio. Et on voit l'enveloppe qui s'étend depuis, mettons, 1000 ans, en chiffre rond, 950 ans, qui s'étend à un rythme très considérable. L'enveloppe est éjectée, les vitesses typiques, c'est 10 000 km par seconde. Donc c'est pas pout, quoi, c'est un truc de fou. Pendant une explosion de supernova, l'énergie dégagée, elle correspond en gros à celle d'un milliard de soleils pour une supernova type 2. Ça brille comme un milliard de soleils. Mais après, comme c'est en expansion, dilution, refroidissement, c'est de moins en moins brillant. Et ça disparaît. Et c'est ce qu'ont vu les astronomes chinois. Ils ont vu une étoile nouvelle. D'un coup, il y a un truc incroyablement brillant dans le ciel. Ça, c'est quand l'explosion se produit. Et puis, c'est resté brillant et ça a diminué. Et quelques mois plus tard, on ne la voyait plus dans le ciel. Quand l'étoile, c'est suffisamment, l'enveloppe, c'est suffisamment diluée, refroidie. Et donc, vous comprenez maintenant d'où viennent les noyaux. Alors après, il y a encore une partie de la classification périodique. Hein. Tous les noyaux jusqu'au fer. Il y a tout ce qui est au-delà du fer, pour l'année prochaine, ou pour les questions, si on a un peu de temps. Tous les noyaux avant le fer viennent des étoiles qui ont fait des réactions de fusion thermonucléaire, mais pas de n'importe quelle étoile. Parce qu'une étoile comme le Soleil, elle fait du carbone. Elle fera du carbone. Quand elle aura épuisé, quand le Soleil aura épuisé son hydrogène, il fera de l'hélium. Il fait de l'hélium en ce moment. Et il fera du carbone avec l'hélium plus tard, dans à peu près 5 milliards d'années. 4 à 5 milliards d'années, et pendant environ un milliard d'années. Et après, il viendra une petite étoile minable, une naine blanche. Il n'y a pas d'explosion. Et de quoi est constituée la naine blanche? C'était le cœur nucléaire de l'étoile qui va rester, la partie centrale. Ces parties centrales, elles sont constituées de carbone, d'azote, d'oxygène, d'hélium, dans l'étoile cadavre. Autrement dit, une étoile comme le Soleil, certes, elle forme du carbone, mais ça reste dans le cadavre, dans la naine blanche. Et l'enveloppe éjectée, qu'on appelle une nébuleuse planétaire, l'enveloppe éjectée contient la matière que le Soleil, à partir de laquelle le Soleil est né, quasiment pas transformée. Donc un Soleil qui meurt, ça rend au milieu interstellaire une matière qui a la même composition que celle qu'il avait, quasiment la même que celle qu'il avait initialement. Et tout ce qui a été formé, les nouveaux noyaux formés, restent dans le cadavre. une étoile qui explose, 8, 9, 20 masses solaires, c'est une, deux masses solaires d'étoiles à neutrons, et tout le reste qui est renvoyé. Et dans tout le reste, il y a une partie de cette matière qui a été transformée par réaction nucléaire. Le fer, le carbone, l'oxygène qui nous constitue, le fer de l'hémoglobine, ou des chemins de fer, ou de l'eau ferrugineuse, ce fer, il a une unique source dans l'univers, les supernovas, de type 2. Je ne parle pas des supernovas de type 1. Il y a un autre modèle de supernova dit de type 1. Les supernovas fabriquent le fer dans l'univers. Le fer de l'hémoglobine, le fer des chemins de fer et le fer de l'eau ferrugineuse. Tout ça, ça vient intégralement de ces étoiles. Donc la généalogie de la matière, elle est là. Ce sont les étoiles qui explosent, les supernovas, singulièrement les supernovas de type 2. Il y a un autre type qu'on appelle supernova de type 1. Les supernovas qui, en explosant, rendent au milieu interstellaire des noyaux qui n'existaient pas avant l'étoile. Ça a pris pas longtemps pour les faire parce que ces étoiles, ce sont les plus massives. Ces massives, elles durent pas très longtemps. Donc il faut, dès les débuts de l'univers, il y avait de l'hydrogène et un peu d'hélium. Les premières très grosses étoiles qui ont été fabriquées, qui ont explosé en supernova, en quelques dizaines de millions d'années, ça y est, elles ont commencé à donner du fer et des machins à l'univers, qui n'en avaient pas du tout. Il a fallu que ça glandouille dans la galaxie, que ça se mélange, que l'étoile se forme, qu'il y ait des planètes, des gus qui apparaissent. Bon, ça prend un peu de temps derrière, mais assez rapidement, l'univers a commencé à s'enrichir en noyaux lourds, au sens des astrophysiciens, en métaux, dont le fer qui est un métal, mais aussi en carbone, et tous les éléments qui nous constituent, mais comme je disais tout à l'heure aussi, les chiens, les ânes et les tables, sont intégralement tous nos noyaux, je dis bien tous, sans exception, sont tous passés au cœur d'une étoile qui a explosé, sans exception. Voilà. Nous sommes tous poussière d'étoiles, vous comprenez le titre. Il y a un lien, c'est quand même une découverte stupéfiante, je trouve, de la science du XXe siècle, des sciences mélangées du XXe siècle, physique nucléaire, physique quantique, astrophysique, gravitation, observations qui vont avec, chimie. Quand je dis chimie, ça veut dire spectroscopie pour comprendre, parce qu'il a fallu comprendre ces éléments sur Terre avant de les reconnaître dans les étoiles. Eh bien, c'est tout un pan de science du XXe siècle qui était capable de reconstruire une partie que je vous ai exposée, mais il y en a encore bien d'autres. Et au-delà du fer et l'uranium et le plomb et nanani et l'or et tout ça, d'où ça vient? Là, c'est encore une conférence d'une heure et demie derrière, au rythme où j'ai été aujourd'hui. Eh bien, tous ces noyaux-là viennent d'étoiles qui ont explosé avant le fer. Au-delà du fer, il y a des subtilités. Parce que aussi, pendant l'explosion, je ne l'ai pas dit, pendant que l'onde de choc balaye l'étoile, ça va faire un peu de nucléosynthèse. Très spécial. Pendant que l'onde de choc balaye l'enveloppe de l'étoile que l'on voit après sous forme lumineuse, enfin sous forme d'un point lumineux, et maintenant sous forme actuelle comme un reste de supernova. Donc, le fait qu'on soit poussière d'étoiles, selon le très joli mot d'Hubert Reeves de l'époque où il a publié son bouquin, eh bien, c'est un fait tout à fait correct. Tout à fait correct et poétiquement exprimé, tous nos atomes, sans exception, sont passés au cœur, les noyaux de nos atomes sont passés au cœur d'une étoile qui a explosé. Il n'y a pas d'autre source de matière nouvelle, de noyaux nouveaux, pas de matière nouvelle, de noyaux nouveaux dans l'univers, les étoiles qui ont explosé, tant qu'on est avant le fer. Au-delà du fer, c'est d'autres processus qui impliquent des étoiles à neutrons, qui impliquent des étoiles très particulières qu'on appelle de Wolfrayer, sur lesquelles je ne rentre pas du tout, et qui permettent d'avoir des noyaux au-delà du fer. La démographie dont nous parlions tout à l'heure, on en comprend tous les éléments. Les rapports, pourquoi lui, il est plus que lui, on comprend quasiment tout, sauf deux, trois petites choses au niveau des éléments légers, parce que ces éléments légers ont été pour partie transformés et surtout consommés dans l'évolution des étoiles, ce qu'on comprend à peu près, mais ils ont été formés avant, au moment d'une autre nucléosynthèse dont je n'ai pas du tout parlé, qui est la nucléosynthèse primordiale, au moment, un peu après le Big Bang. Pendant trois minutes, il y a une phase de fabrication de noyaux à partir de l'unique source primordiale qui est les protons et qui a fait un peu d'hélium. 90-10, c'est en gros les proportions hydrogène-hélium dans les époques très reculées de notre univers. Et il y a un petit peu de résidus dont les éléments légers vont porter témoignage pour valider les modèles de cette évolution nucléaire cosmique primordiale. Et ces aimants légers, c'est la merde parce qu'ils sont difficiles à gérer. Ils sont à la fois créés il y a longtemps et détruits dans les étoiles et formés un peu par d'autres processus. Il va falloir qu'on chasse là. Parce que... Bon, voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop soulevé. Je vais conclure par cette phrase-là que je trouve géniale de Georges Lemaître. Je vous la montre quand même, elle est géniale. L'évolution du monde peut être comparée à un feu d'artifice qui vient de se terminer. Quelques mèches, cendres et fumées. Debout sur une escarbille mieux refroidie, nous voyons s'éteindre doucement les soleils et cherchons à reconstituer l'éclat disparu de la formation des mondes. Voilà, c'est exactement notre position, comme être pensant sur une escarbille mieux refroidie au milieu de l'univers. Merci à vous. Thank you.